RPL.
89.2. Nous recevons Maurice Lambert, auteur d'un témoignage bouleversant intitulé « Introduction d'une vie ». À ses côtés, Nathalie De Oliveira, ancienne députée, qui nous apportera son regard sur les réalités sociales évoquées dans ce récit. Un moment d'échange fort entre vécu personnel et engagement public. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Chers auditeurs et auditrices.
Bonjour.
On parle donc de votre témoignage, Maurice. Votre histoire commence dans des circonstances très dures. Comment avez-vous découvert vos origines ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu 18 ans d'orphelinat. J'ai vécu 18 ans d'orphelinat. Et pour connaître la base du départ de ma vie, je suis allé à la DAS en 1975, le 19 septembre exactement, où j'ai rencontré une assistante sociale qui s'appelait Madame Weber et qui m'a dit « Bon, ben, vous inquiétez pas, vous avez été trouvé dans une poubelle, vous venez de père et de mère inconnus et on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on ne peut pas faire de vous un assassin. Donc on peut juste éventuellement vous dire que votre père, c'est le beau-frère de votre mère, mais au-delà de ça, on ne peut pas vous en dire plus. » Donc, sur ce fait, je me suis dit, bon, ben, mets ta fierté dans ta poche, le mouchoir par-dessus. Vis ta vie, mais dans la droiture et dans le respect.
Madame De Oliveira, quand on écoute ce type de parcours, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'ancienne élue ?
Ça, bah, de manière personnelle, évidemment, moi, ça me rappelle, en fait, ça me renvoie à l'histoire de ma mère qui a été plus chanceuse. Mais en fait, c'est un drame d'abord. C'est d'abord un drame évidemment personnel. Il n'y a rien de plus normal, mais aussi beau d'être accompagné. Et puis, alors pas forcément, on a toujours en tête le schéma classique du papa et de la maman qui s'aiment avec un petit garçon et une petite fille. Donc moi, je pense que ça n'a jamais été exactement comme ça. Et que bah, les réalités de amoureuses, enfin là, la question de la constitution d'une famille, il y a beaucoup plus aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été le cas d'ailleurs, mais aujourd'hui de manière beaucoup plus acceptée, différentes situations et différents types de familles où on peut évidemment naître, être accueilli, grandir et être accompagné évidemment pour se développer, pour s'émanciper, pour aller le plus loin possible vis-à-vis de soi-même, de ses rêves. Et c'est vrai que l'histoire de Maurice, il n'est pas le seul. Moi, je pense que beaucoup de gens, je disais que ça me renvoyait à une histoire personnelle, c'est celle de ma mère, qui est née hors mariage. Et donc, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, dans les années 50, 60, et puis encore aujourd'hui, les femmes se retrouvent quand même beaucoup avec des enfants sur les bras. C'est elles qui enfantent, ce ne sont pas les hommes. Et on a comme ça, évidemment, on part mal. Voilà. On arrive sur la terre un peu mal. Et son histoire, malgré... Voilà, cet état de fait, c'est aussi une volonté inouïe d'être heureux et de dépasser tout ça. C'est-à-dire de dépasser la condition de sa naissance. Et ça, alors si c'est déjà le cas un peu pour tout le monde, de régler beaucoup de choses avec les déterminismes de sa naissance, des conditions sociales dans lesquelles, auxquelles on a été liés, par famille, et c'est aussi, c'est encore davantage quelque chose, enfin une histoire extraordinaire, puisque dans des conditions classiques, et belles d'ailleurs, d'avoir un père et une mère, comme moi c'était le cas, et qui m'ont aimée, c'est pas le cas de tout le monde. Et je mesure quand même la dimension de cette volonté d'être heureux malgré tout.
Maurice, vous évoquez un sentiment d'abandon très fort, un véritable calvaire, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre enfance après avoir découvert ce que vous nous avez raconté tout à l'heure ?
Alors, la partie de ma vie infantile a été très, très, très douloureuse parce que je n'étais pas tout seul. On a fait une œuvre, bien évidemment, il y avait d'autres camarades. Et ce qui était très difficile dans le contexte éducatif de l'orphelinat, c'est que, bon, on était considérés comme rien. C'est-à-dire que nous enfants de la DAS, ni de père et de mère inconnus, on était considérés comme des résidus de... Bon, par respect pour les auditeurs et les auditrices, je ne citerai pas la vulgarité du mot, mais bon, on s'imagine bien. Et on était traités comme des déchets. Mais le plus difficile encore dans l'évolutif de l'infantile, c'est que voir ses camarades avec les parents, leurs parents qui venaient, qui leur donnaient des cadeaux, de l'argent, des bonbons, tout ça, le week-end, et vous étiez contre un arbre, vous n'aviez rien. Toutes les larmes de mon corps, et je me disais toujours, et je me suis dit toujours aujourd'hui à 68 ans, j'ai le même discours, c'est que le moindre centime que je gagnerai dans ma vie, je gagnerai honnêtement et à la sueur de mon front. Et c'est ça la douleur, c'est de voir que les camarades avaient tout et vous n'avez rien. Et combien de fois, à part le discriminatif, c'est-à-dire que on vous traitait de moins que rien, vous étiez mal aimé, maltraité, parce que pour les éducateurs, les chefs, vous étiez rien. Mais le pire, c'est combien de soirs je me suis endormi, enfoui en dessous des couvertures dans les draps et pleurant. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps en demandant « Papa et maman, où êtes-vous ?» C'est là la douleur extrême du manque d'amour maternel et paternel. Mmh. Ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile pour un enfant.
D'après vous, tous les deux, est-ce que la prise en charge des enfants placés a changé aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vivent la même chose que vous ? Je ne pense pas, mais...
Personnellement, moi, ce que j'ai vécu dans les années 60, j'espère qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. J'espère que parce que maintenant, quand on voit les lois pour la protection de l'enfance, c'est bien. Je crois que c'est très bien. Mais il faut rappeler une chose qui est fondamentale et qui est au départ de ces drames, c'est l'éducation parentale. C'est-à-dire que les parents n'ont plus ce sens de l'éducatif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on est enclin à constater qu'il y a plus en plus de jeunes qui sont à la dérive, qui sont totalement perdus. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cette éducation. Et comme, en petite parenthèse, je dirais, Mandela a dit un jour, la force la plus puissante de ce monde, c'est l'éducation. Et je crois qu'il a raison. Et je crois que les parents doivent penser une chose, c'est quand un enfant vient au monde, il ne vous appartient plus. Vous êtes là, vous êtes le tronc, vous êtes là pour l'éduquer, l'écouter, l'aimer, le respecter comme lui doit vous respecter, mais surtout l'aimer, le guider, et dans ses choix, le conseiller quand ils sont bons ou quand ils sont mauvais, mais être là pour lui. Sans pour cela dire « tu m'appartiens, tu feras ce que je veux ». Non. Il faut l'écouter. Écouter un enfant, c'est très, très, très important. Parce que même dans une phrase anodine de la part d'un enfant, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Donc, et ça aussi, aujourd'hui, on a de la chance quand même parce qu'on a des institutions qui ont changé les lois et où l'enfant est davantage protégé. Et heureusement d'ailleurs.
Oui. Alors... l'enfance et les droits évidemment qu'on doit aux enfants et le respect absolu de leurs paroles, c'est quelque chose de récent quand même. C'est pas un fait ancien quand on parle je pense tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, avant j'en parle même pas. Évidemment qu'il y a eu des progrès en France, pardon, en Europe aussi. Il faut quand même savoir que dans le reste du monde, le travail infantile, c'est quelque chose d'absolument courant. Il faut se rappeler quand même que pas loin de la moitié de la planète ne vit pas en démocratie. Donc les droits, c'est une notion vague. Alors la conquête de liberté, la conquête des droits sociaux, enfin tout ça, voilà, je ne sais même pas si ça appartiendra à leur propre 21e siècle. Il y a encore je ne sais pas combien de générations. Donc il faut évidemment s'en souvenir puisqu'on a un pays quand même plutôt déprimé. Ouais. Et il y a eu évidemment que nous avons connu en France des progrès sur la protection de l'enfance, mais on est encore loin du compte. Et les témoignages se multiplient, les publications, voilà, il y a certaines personnes qui, beaucoup d'ailleurs, ont du courage de prendre la parole et de dénoncer encore tout un système qui est dysfonctionnel sur la prise en charge de la naissance. La question médicale peut-être beaucoup moins puisqu'on a un accompagnement quand même très suivi, mais les institutions en soi, la question le volontarisme des départements qui ont en charge quand même l'accompagnement voilà, des enfants qui, bah, qui, dont les parents, auxquels les parents renoncent ou qu'on trouve encore abandonnés. Et l'accompagnement, évidemment, d'ordre affectif et psychologique, puisque nombre d'abus ont été dénoncés dans plusieurs familles d'accueil. Enfin, il y a quand même des enfants encore aujourd'hui et très récemment qui ont eu des parcours absolument épouvantables, qui ressemblent encore, évidemment, malheureusement, à celui de Maurice Lambert dans les années 60. Mmh. Malgré le fait que, bon, voilà, ce qu'on appelait la DAS à l'époque et la ZE aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. D'accord ? Je suis évidemment convaincue que les progrès sont vérifiés, mais ça reste un drame d'être abandonné et de ne pas être désiré. Et ça reste un drame, de toute façon, que même si la République les accueille, c'est loin d'être idéal. Et on a encore... c'est pas quelques témoignages exceptionnels. On a encore des milliers de témoignages à travers la France et dans tous les départements où les parcours sont tragiques, sont encore tragiques. Alors des députés, évidemment, on a des législateurs qui ont embrassé cette cause. On a évidemment, heureusement... des contractuels, des fonctionnaires, des chargés de mission, des associations qui se sont constituées et qui, bah, comme toujours, hein, le coup de pied vient de la société civile, vient des familles, alors parfois certaines, hein, qui sont des familles d'accueil et d'autres qui prennent conscience des limites, évidemment, bah, du système institutionnel et qui sauvent, bah, qui sauvent ces vies. Et évidemment que l'amour n'est pas une question de filiation sanguine. Voilà, l'amitié non plus, la solidarité non plus, ça se saurait depuis longtemps. Voilà, donc on a vécu et on a encore évidemment certainement à vivre des progrès, tendre vers l'idéal, hein, disait Jean Jaurès, dans nos sociétés. Mais je pense que quand même les enfants sont à la fois leurs paroles et des juges en témoignent. Pas écoutés, ou en tout cas toujours remis en cause puisque ce sont des enfants, face à la violence, face à des mots qu'ils n'ont même pas par rapport à ce qu'ils ont subi ou ressenti. Et ensuite, en même temps, des sociétés où, là où il y a famille, là où il y a autorité parentale, où, bah, comme vient de dire Maurice, on a quand même on est envahi par des influences, pas seulement virtuel, mais des, ce qu'on appelle les mainstreaming, là, de choses qui nous, bah, qui finissent par nous conditionner. C'est-à-dire que, bah, bien sûr qu'on va pas leur mettre une fessée. Ça ne sert plus à rien de se disputer. Le conflit, bon. Et je pense que, je pense qu'on vit quand même une forme, d'un point de vue sociétal, peut-être un peu régressif sur la question de, et c'est très contradictoire. On est dans des sociétés d'évaluation. On nous demande de mettre des étoiles partout dès qu'on achète quelque chose en ligne, dès qu'on cherche une information en ligne, dès qu'on se parle, on est censé s'évaluer. Bon, bref. Il y a quand même en même temps finalement un manque d'autorité quand même, c'est-à-dire sur la posture et la parole aussi éducative, familiale. Et on voit bien ce que vit le corps enseignant, ce que vit le corps enseignant en France. Je veux dire, l'angoisse d'aller donner cours, parce que l'élève va se vexer. Il n'a pas ramené, il n'a pas fait évidemment son travail, on le lui reproche et il est vexé. Et puis il rentre à la maison et les parents reviennent pour évidemment réprimander le professeur. Ouais. Donc bon, là, il y a peut-être des choses aussi sur lesquelles il faut réfléchir. Et comme on est dans une... En fait, l'enfant qui arrive évidemment sur cette terre... heureusement, peut-être que même dans des familles où tout se passe bien, la communauté éducative est beaucoup plus large que le cercle familial. Puisque moi, je suis née dans une famille où il y a beaucoup d'amour, et ben, ça ne signifie pas qu'ils sont en capacité de donner ce dont on a besoin. Donc il y a évidemment l'instruction, il y a évidemment la connaissance, il y a évidemment même ce qui est évidemment divertissement. Il y a divertissement qu'on a en famille, qu'on n'a pas à l'extérieur, etc. Donc la communauté éducative, c'est peut-être tout un pays en entier. Ouais. Et voire plus large. Depuis quelques années, ça s'aggrave quand même. On est de plus en plus ouvert à tout. On est envahi par tout un tas de connaissances. Et en fait, on est de plus en plus démunis. Donc je repense aux anciens, je repense à la culture, à la sagesse populaire, je repense à des dictons, je repense à beaucoup de choses françaises d'ailleurs, pas seulement portugaises dont je suis originaire et encore tout un tas d'influences. Mais bah, on ferait mieux de se raccrocher à des réflexes qui étaient très sains. On a eu des générations précédentes, une transmission de savoir-être et du savoir-vivre. Et c'était pas, on n'était pas dans des conditions matérielles absolument géniales, quoi. Oui. Donc, on a aussi vécu dans la cellule familiale et en société de façon peut-être plus apaisée qu'on ne l'est aujourd'hui. Et ça, sur les enfants qui naissent. Voilà, où la première chose qu'ils regardent à quelques mois de vie, parfois trois mois de vie, c'est un écran de téléphone. Ça pose des questions sur, bah sur l'impact du fonctionnement des institutions, qui sont elles-mêmes, de toute façon, dirigées par des personnes qui se retrouvent envahies et conditionnées par tout un tas de dysfonctionnements, quoi. C'est clair. Voilà.
Donc la solution, ce serait de retourner en arrière. Ce serait un peu ça.
Moi, mon histoire personnelle, elle est que l'orphelinat, bon, c'est vrai que ça a été difficile, ça a été très dur. J'ai été, c'est vrai, martyrisé par moi physiquement, j'ai souffert physiquement, psychologiquement et moralement. Mais j'ai eu quand même cette chance, c'est que, bon, il y avait une discipline extrêmement, extrêmement difficile, dure à supporter. Et quand on faisait une erreur, on était coincé le dimanche au réfectoire, bras croisés, la tête sur les bras, et puis on ne bougeait pas pendant toute l'après-midi. Et moi, j'avais toujours ce regard vers une bibliothèque, parce qu'on avait une bibliothèque immense. C'était à Schirmeck-la-Brock, à l'établissement au Berlin, en dessous du Struthof, là-bas. Et à l'âge de 12 ans, j'étais un dimanche, j'étais bloqué là. Et il y a un chef qui était là, qui me regardait à chaque fois. Et puis qui me dit, bon, je vois que tu vas aller dans la bibliothèque, vas-y. Et ça m'a allumé une flamme d'espoir intérieurement extrêmement importante. Je suis rentré tout droit dans cette bibliothèque. J'ai encore l'image, je suis tombé face à face deux livres, Steiner et Freud. Et j'ai pris ces deux livres, je les ai étudiés pendant 2 ans. 2 ans, j'ai étudié, je les ai lus tous les deux 30 fois, j'ai fait plus de 280 recueils sur eux. Et ça m'a permis d'étudier... le comportement humain, aussi bien dans son humanisme que dans sa bestialité, comme dans son irresponsabilité ou dans sa prise de conscience. Et il faut savoir qu'on a 4 langages. Vous avez le langage infantile, vous avez le langage pré-ado, ado et adulte. Ce sont 4 langages différents et 4 comportements différents, 4 études et compréhensibilités de vie différentes. Parce que dans le langage, vous pouvez avoir des mots pour un enfant que vous pouvez traumatiser psychologiquement, psychiquement. De même que pour le préado ou l'ado ou l'adulte. Donc, ça m'a énormément aidé. Et si vous voulez, tout ce pôle souffrance que j'ai vécu pendant 18 ans, parce que bon, ça n'a pas été souffrance 18 ans, hein, rassurez-vous, parce que vers 14 ans, je suis rentré à Moisson-Nouvelle-Aboulay où j'ai fait un brevet de compagnon de soudeur. Où j'ai appris à travailler, heureusement pour moi d'ailleurs. Et cette étude de Steiner et Freud, ce pôle souffrance, je m'en suis servi pour en faire un pôle force. C'est-à-dire que, après toutes ces études de Steiner et Freud, je me suis dit, maintenant, il faut que tu comprennes que, bon, tu as décidé de marcher droit, mais il faut que tu sois l'humain au service de l'humain. Donc, t'engager dans le bénévolat, à aider autant que faire se peut les gens que tu rencontres et que tu croises dans ta vie. Mais surtout, je crois qu'il y a une science extrêmement importante que l'humain a du mal à mettre en pratique, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment à l'écoute, aussi bien de nos enfants ou de l'interlocuteur qu'on a en face. Parce que écouter, comprendre, sans jamais juger, c'est déjà être grand. Mais être grand, savoir écouter, c'est déjà être grand. Parce que quand j'intervenais pour SOS Racisme dans les écoles, on leur faisait écrire un mot. Je leur disais, ce mot-là m'a sauvé la vie. Et ce mot-là, c'est respect. Et là, je voyais les enfants en interrogation se dire, bah, attends, un mot sauve une vie, c'est pas possible, ça veut dire quoi? Ben oui, pourquoi? Tout simplement parce que je m'étais, dans mes réflexions d'études sur Freud et Steiner, je me suis toujours dit de faire abstraction comment l'individu face à moi
était aussi bien habillé, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, ses idéologies, qu'elles soient politiques, religieuses, quelconques, ne m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la beauté du cœur et la culture. C'est pour ça qu'après maintes et maintes années de réflexion, j'ai écrit une citation qui dit que l'être humain, ça n'est pas une couleur ni une origine. Pour moi, l'être humain, c'est un cœur, c'est une culture. Et ça, c'est à nous de le comprendre et de l'écouter et d'échanger avec. Parce que le pluriculturalisme, c'est énorme. C'est essentiel pour une nation. Et de même que quand j'entends ces gens qui parlent de noirs, d'arabes, de ceci et de cela, moi j'ai vécu en orphelinat où c'était pêle-mêle, hein, il y avait toutes les origines. Mais je me suis toujours dit, moi j'ai écrit cette citation aussi qui dit que il n'y a point d'émigrés dans ce monde à mon cœur, il n'y a que des êtres humains. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est tous les émigrés de quelque part. Ça, c'est dans les gènes de l'humain. Moi, j'ai eu, vous savez, dans mon parcours de vie, j'ai eu une leçon de vie exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. À l'époque, j'avais 18 ans et quelques mois, et les ouïas du bassin de Lorraine et les ouïas de France cherchaient des mineurs de fonds. Et ça payait bien, parce qu'à l'époque, ils nous donnaient 3000 francs et des bons de charbon. Moi, peur de rien, pas de famille, personne qui me regretterait si jamais il m'arrivait quelque chose. Je dis, je vais y aller. Puis bon, il faut être honnête avec soi-même. C'était aussi pour l'appât du gain, quand même. Et j'ai été faire la formation à Merlebach. Et on était 37. Et le jour où il a fallu descendre au puits 5 à Merlebach à 1250 mètres de fond, nous étions plus que 4. C'est vrai qu'il fallait avoir du courage quand même pour descendre. Mais là où j'ai eu une leçon de vie, c'est quand je suis descendu en bas que j'ai vu tous ces hommes. Alors, multiracial, hein, il y avait des Algériens, des Marocains, des Hollandais, des Polonais, toutes les origines possibles et imaginables, mais qui étaient pères de famille. Et quand vous prenez conscience, quand vous, dans votre propre intérieur, que vous dites, tu te rends compte que ces gens-là sont pères de famille, vont risquer leur vie pour nourrir et subvenir aux besoins de leur famille. C'est quand même exceptionnel, c'est démentiel. Et quand vous arrivez, quand vous remontez du puits, vous en êtes bien heureux, mais quand vous allez à la douche, que vous frottez, vous êtes à une dizaine, aligné là derrière, vous frottez le dos du copain, vous n'allez pas regarder s'il est algérien, s'il est tunisien ou s'il est hollandais. Oui, il y a une espèce d'osmose humaine, il y a une formidable humanité, et c'est vraiment une belle leçon de vie. Ça prouve que ouais, toi t'es d'origine, ça ne rime à rien. Comme je le dis, on est tous émigrés de quelque part. Donc moi, ça m'a donné une leçon de vie, et c'est pour ça que ça m'a conforté dans l'idée de respecter et aimer l'humain, qu'il soit noir, jaune, blanc, vert, on s'en fout de sa couleur de peau, de son origine. L'être humain a le droit au respect de la dignité humaine, quel qu'il soit. Et moi, quand m'est arrivé, j'ai eu passé 60 ans, on me disait toujours, Maurice, oui, mais t'as pas eu de parents, quelles sont tes origines? C'est vrai que quand on débarque, moi j'ai toujours dit, je sais d'où je viens d'une poubelle parce que j'étais trouvé dans une poubelle, je sais d'où je viens. Mais bon, ça ne me donne pas l'autorisation de dire, je m'en suis sorti, donc je suis supérieur aux autres. Non. Et j'ai, dans ma réflexion, au bout d'un certain temps, j'ai dit, de quel droit je jugerais mon père et ma mère? Et j'ai écrit une lettre à ma mère, à mes parents, pour leur demander pardon. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi tu vas leur demander pardon? J'ai dit tout simplement que j'ai peut-être été un obstacle dans leur vie, c'est-à-dire dans l'avancement, dans la construction de leur vie. J'ai peut-être été un obstacle, mais je dois remercier ma mère, quand même, qui malgré ça, peut-être, a quand même eu ce courage de me donner la vie, parce que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que on me dit « Attends, tu écris, tu demandes pardon à tes parents. » C'est toute une réflexion qui va avec la psychocinésie de ma recherche sur le respect de la dignité humaine et les prises de décision humaines qui, des fois, peuvent dépendre la vie d'un enfant ou la vie d'un être humain. Donc, l'être humain, si sur lui-même, il ne fait pas un travail sur lui-même pour essayer de comprendre l'autre, il n'y arrivera pas. Je me rappelle d'une citation de Gandhi. J'ai lu Gandhi, il y a une citation qui m'a formidablement marqué. Gandhi a dit un jour, « Riche n'est pas celui qui fait le tour du monde. Riche est celui qui fait le tour de lui-même. » Et ça m'a interloqué, ça m'a interrogé, ça m'a fait dire que le tour de lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable, le soir, après une journée de travail ou quelconque, de refaire le film de sa journée et de se remettre en question et de se dire, voilà, là j'aurais pu changer comme ça, j'aurais pu parler comme ça, j'aurais pu être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est avoir cette... je dirais, être capable de faire ça, c'est déjà formidable. Avoir ce formidable courage de pouvoir se remettre en question. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'un être humain dépend des autres comme les autres dépendent des fois de lui. Donc, et comme aujourd'hui, pour en revenir, aujourd'hui, des phénomènes sociétaux, comme on voit avec tous ces gamins qui sont perdus dans les rues, qui font des conneries, parce que bon, faut être honnête, on a tous été jeunes, on a tous fait des conneries, mais quand on voit aujourd'hui que ça va jusqu'à l'agression, que ça va dans les refus d'obtempérer, jusqu'à blessures d'hommes, c'est vraiment grave. Et quand on voit que c'est des gamins de 12, 14, 15, 16 ans, mais alors on se dit, comme j'en reviens à dire ce que disait Mandela, l'éducation, les parents. Alors moi j'ai constaté qu'il y a un phénomène qui se passe et qui est grave, c'est que beaucoup de parents se disent, bon, je le mets à l'école, l'école s'en occupe. Mais attendez, il ne faut pas confondre. L'éducation nationale est là pour enseigner les matières de la vie. Elle n'est pas là pour éduquer. Il faut bien faire la différence. L'enseignement n'est pas l'éducation. L'éducation, elle est réservée aux parents. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Moi, je n'ai pas eu de parents. C'est la vie qui m'a élevé. Parce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, je leur dis, la vie, c'est une grande leçon. À vous d'en tirer les conséquences et les avantages. Et ce que la vie vous met devant vous, analysez et comprenez pourquoi c'est là. Quand vous faites une erreur, ne dites pas, oui, ben voilà, je ne suis plus bon à rien, j'ai fait ceci. Non. Dans une erreur, si on analyse une erreur, si on en fait une synthèse d'une erreur, on en retire toujours quelque chose de positif. Déjà, le premier point positif d'une erreur qu'on en retire, c'est qu'on ne la recommettra plus une deuxième fois. Et c'est qu'on peut s'en servir pour éviter à d'autres de la commettre. Déjà là, c'est du positif. Donc, dans la vie, il faut essayer d'être le maximum en réflexion et d'écouter et de comprendre. Et ne pas juger. Juger, c'est ridicule. Parce que des fois, quand vous allez juger quelqu'un, « Oui, mais t'as vu, c'est un arabe, moi je ferais... » Non, parce que vous pouvez passer à côté de belles choses, de belles personnes. Avant tout, il faut écouter.
Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? C'est une libération ou c'est l'envie de partager à votre famille, et à vos enfants, petits-enfants?
C'est la réflexion de l'écriture de mon livre. Bon, c'est beaucoup d'amis à moi qui m'ont dit... Beaucoup d'amis à moi m'ont dit, monsieur Lambert, vous devriez écrire un livre. Bon. Je me suis prêté un peu au jeu, mais c'est une libération, effectivement. Faut être honnête avec soi-même. Moi, c'était une libération. Et je peux vous dire que écrire mon histoire, j'ai dû ressortir des parties de ma vie qui m'ont été très, très, très difficiles. Parce qu'on essaye d'enfouir ces douleurs, mais elles sont toujours là. Mais j'ai fait beaucoup, une grosse étude sur le pardon. Et pardonner à quelqu'un, c'est mettre cette personne-là en défaut. C'est-à-dire de la mettre en réflexion et de se dire, attends, je lui ai fait souffrir ça, je lui ai fait ceci, je lui ai fait cela, et il me pardonne. Pourquoi ? C'est que chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'à moi de réfléchir pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Ça aussi, c'est un travail sur lequel je suis en train d'écrire, le pardon et la dignité humaine. Et ce livre-là, je l'écris pourquoi ? Parce que c'est pour faire comprendre à des gens qu'un enfant, on doit le respecter. Et lorsque on a créé, quand on a envie de créer une famille, qu'on a envie d'avoir des enfants, il faut bien en mesurer les conséquences. On ne peut pas dire, non, on ne le garde pas, allez, jette-le. On ne peut pas. Un enfant, ça ne se jette pas comme un Kleenex. Un enfant, c'est un être humain, c'est fait de chair et de sang. Ça a le droit au respect, à la dignité. Parce que c'est la représentativité de votre famille, un enfant. Donc, c'est quelque part... Moi, la vie m'a donné la chance d'avoir 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille, merveilleux. Et là aussi, j'ai eu une belle leçon de vie. Là aussi, j'ai une belle leçon de vie parce que quand la maman de mes enfants a fait 3 césariennes dans les années 80, moi, je l'ai vue souffrir dans sa chair pour me donner le fruit de notre amour, donner nos trois enfants. Et je peux vous dire que ça inspire le respect. Donc, j'ai un respect inconsidérable pour la femme comme pour l'homme, mais pour la femme aussi, parce qu'il faut savoir que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui, quand même, pendant 9 mois, supporte l'enfant. Donc, c'est énorme ce que fait la femme. Hein? Et quand je dis que je suis un fervent défenseur pour les défenseurs de l'égalité homme-femme, je sais de quoi je parle. Quand j'étais jeune soldat, je me rappelle d'une jeune femme qui était très très gentille, très charmante du reste, mais qui était maman aussi, mais qui était la première pilote de chasse à la BA 128 à Frescati. Alors, excusez-moi du peu, il y a des hommes pilotes de chasse, mais une femme pilote de chasse, c'est pas dénué de respect, hein ? C'est pas dénué de demande de respect. Donc ça prouve bien que quand on voit aujourd'hui qu'on est capable d'envoyer une femme sur l'ISS, excusez-moi du peu, mais alors ne venez pas me dire après que la femme est inférieure à l'homme. Non, je suis désolé. Même boulot, c'est même salaire, même emmerdes, c'est même salaire, même avantages, c'est même salaire. Il n'y a pas à dire moins 25% parce que vous êtes une femme. Pourquoi ? Parce que tu as quelque chose entre les jambes, tu es plus supérieur. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ça, là-dessus, j'ai toujours été... Et moi, ce que je suis admiratif parce que nous, on fait les beaux, on fait les machos, mais nous, on est tranquille pendant 9 mois, on n'a pas de soucis, on va au boulot et tout. Mais celle qui doit se taper, qui doit supporter la grossesse...
Tout au long de la vie, hein. C'est pas que les 9 mois de grossesse, c'est les femmes qui portent tout.
La femme porte tout. Non seulement elle porte l'enfant, le fruit de notre amour, mais en plus, elle s'occupe du ménage à la maison, elle s'occupe de faire à manger, elle s'occupe de tout. Nous, on est bien contents de se lever le matin que le café soit prêt. Hein? Alors, il ne faut pas exagérer.
Et encore de nos jours, les femmes, elles sont enceintes, elles accouchent, elles travaillent à la maison.
Elles travaillent.
Elles vont encore à l'extérieur.
Alors, c'est ça, là-dessus, je voudrais intervenir aussi. Parce que nous, à l'époque, moi, la maman de mes enfants restait à la maison s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, nous, à l'époque, on disait, oui, vous vivez à 100 à l'heure, les jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes vivent à 200 à l'heure.
Oui.
Moi, je vois mon fils travaille, mon fils aîné travaille, il va en déplacement. Je suis extrêmement fier de lui parce que et de ma belle-fille, parce que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel, c'est formidable. Et ma belle-fille travaille aussi, mais attendez, mon fils, quand il est en déplacement, ma belle-fille emmène les enfants à l'école, de là, elle part au boulot, elle fait sa journée de boulot, elle rentre, elle récupère les enfants, elle fait à manger, le fils est en déplacement. Et... Par contre, ce que j'ai constaté, c'est quand mon fils est là, c'est lui qui s'occupe de ça. Bon, oui. Donc il y a une complémentarité.
Oui, voilà, oui.
C'est ça qui est formidable. Mm-hmm. Moi, je vois mes petits-enfants qui sont super heureux, sont bien portants et tout, ils ne manquent de rien. Donc, c'est ça aussi. Donc, une femme, imaginez,
Elle n'a qu'un salaire, hein, quand elle va bosser. Elle n'a pas d'autre salaire. Hein. Elle n'a rien d'autre. Alors, quand est-ce que nos gouvernants comprendront qu'une femme, c'est un double emploi? C'est un double emploi.
Oui.
Parce que le mari, il est en déplacement, il ne peut rien faire à la maison s'il a 500 km. Mmh. C'est elle qui doit tout gérer. Donc, c'est un double emploi.
Ouais.
Quand est-ce qu'on aura compris ça? Quand on entend M. Larcher dire « Oui, mais c'est l'inflation, on a augmenté de 700 euros. Hein, » Mais vous ne croyez pas que le couple qui travaille à deux, l'inflation, il ne la subit pas?
Oui, mais lui, c'est le chef du Sénat, il a autre... Sa vision du quotidien est quand même très loin de la nôtre.
Alors, ces 700 euros, pourquoi on ne les donnerait pas aux femmes qui font un double emploi? Parce que, alors, ce qu'il faut se dire une chose, moi, ce qui m'aberre aujourd'hui, et ce sera le deuxième opus de mon deuxième livre, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont élus, les élus de la République, sont complètement déconnectés de la réalité. Quand j'entends des gens qui me disent « Oui, mais nous, on défend l'ouvrier et tout », qui n'ont jamais mis un bleu de travail, qui ne sont jamais allés à l'usine, ils ne connaissent pas ces difficultés. Et moi, ce qui me tarabistouille aujourd'hui, c'est que quand on voit toute cette jeunesse qui est sans travail, quand on voit tous ces métiers d'art qui sont en voie de disparition, on se dit, mais comment se fait-il qu'on ait toute une jeunesse qui n'ait pas de travail et qu'on ait des métiers d'art à côté qui disparaissent? Parce que un métier comme le mien, ferronnier d'art, ou ébéniste, ou menuisier, ou maçon, ce sont des métiers qui sont en voie de disparition, des métiers d'art. Et moi, je ne vois pas un ordinateur faire une volute. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça c'est clair.
Non, ni l'intelligence artificielle ne va pas... D'ailleurs, on annonce que les métiers manuels vont être richement payés, puisque l'IA est censée remplacer pas mal de travail intellectuel, comme rédiger évidemment des argumentaires pour les avocats, etc. Donc, Maurice Lambert risque de recommencer à travailler à temps plein.
En plus, là, je suis en train de travailler, de monter un dossier pour créer un festival international des métiers d'art en voie de disparition, de manière à ce qu'on puisse, par le biais de l'association UNESCO Jean Lorrain, de façon à ce que l'on puisse intéresser nos jeunes à ces métiers manuels. Parce qu'à l'époque, il y a eu une grande polémique que j'avais ouverte avec Lionel Jospin, respect à son homme, il vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, et c'était un grand monsieur, un homme pour qui j'avais un immense respect. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné ma première carte du Parti Socialiste en 1976, quand je m'y suis engagé, et j'y suis encore, plus de 50 ans après. Et j'avais dit, Lionel, j'ai dit, non, le bac, oui, mais pas pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas pris conscience qu'on avait des jeunes qui, en sortant de l'école, savoir compter, lire et écrire leur suffisait. C'était plutôt des manuels. Donc, ça, on les a mis en parenthèse, alors que on a besoin d'eux. Et aujourd'hui, moi, je me rappelle quand j'avais mon petit atelier, j'avais des jeunes qui venaient en stage chez moi, et je leur faisais faire une pièce. Ça, c'était l'important pour moi, de leur faire faire une pièce, pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont capables de réaliser, de créer, de réaliser quelque chose de leurs mains. Et quand ils faisaient une pièce, je peux vous dire qu'ils avaient des milliers d'étoiles dans leurs yeux, parce qu'ils avaient le sentiment de se dire, ils pouvaient se dire, parce que c'était concret, ils pouvaient se dire, j'ai imaginé, j'ai créé, j'ai réalisé. Alors imaginez la fierté. Et j'ai un jour un papa qui me téléphone un soir, qui me dit, Monsieur Lambert, vous prenez tous les jeunes en stage dans n'importe quelle question. Ben, j'ai dit, oui, absolument, je ne veux pas. Parce que j'ai mon fils qui a des problèmes psychomoteurs. Ben, j'ai dit, écoutez, ce n'est pas difficile. Venez avec votre fils demain matin et puis on en discute. Écoutez, il est venu avec son garçon. De prime abord, en voyant le garçon, jamais vous allez vous imaginer qu'il a des problèmes psychologique. Et j'ai dit, écoutez, monsieur, s'il veut vraiment essayer, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que je devrais lui apporter un peu plus d'attention, parce que, bon, il y a des machines-outils, on peut se blesser et tout. Mais je l'ai traité comme les autres. Je n'ai fait aucune différence. Mais vous auriez vu ce jeune, il était émerveillé.
Et je, en parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Son papa m'a téléphoné quelques temps plus tard. Il me dit, monsieur Lambert, vous savez, vous m'avez beaucoup aidé pour mon fils. J'ai écouté, j'ai fait que... Je l'ai traité comme les autres, hein. Il n'a pas eu de... Mais attendez, il a évolué énormément. Il a énormément évolué, il s'est ouvert davantage. Et vraiment, je dois vous remercier. Mais la plus belle histoire que j'ai eue quand je faisais faire des stages à mes jeunes, c'est que je prenais toujours en binôme ou par trois. Un jour, j'ai eu trois jeunes du continent africain, mais de trois pays différents. Ce qui dit trois pays différents, trois dialectes différents,
ah oui.
Trois cultures différentes. Mmh. Hein. Donc, ils ont fait une pièce chacun, parce qu'ils venaient du centre de formation à Marly. Et ils ont fait chacun leur pièce. Et puis j'ai dit, tiens, bingo, comme ils sont tous les trois dans la même classe, je leur dis, vous allez me faire une pièce ensemble que vous allez imaginer et créer ensemble et réaliser ensemble. Et vous savez ce qu'ils ont réalisé ensemble ? Collégialement. Et je n'ai pas entendu un mot, hein. Pas un mot plus haut que ça, vraiment super bien. Ils ont réalisé le continent africain tous les trois ensemble. Le même continent, alors qu'ils sont de trois cultures et trois origines différentes. Moi, ça m'a subjugué, j'en étais heureux. Et je dis ça, je raconte ça parce que, pour moi, ça a été un émerveillement, j'étais content des jeunes. Mais c'est pour dire aux gens, aux grands de ce monde, plutôt que faire votre trafic d'armes, de ventes, de machins, de bidules, pour tuer des êtres humains qui ne vous ont rien demandé, prenez ça comme leçon. Être capable de créer la même chose, pourtant en étant de trois pays différents. Du même continent, mais de trois pays différents, de trois origines différentes, de trois cultures différentes.
Espérons qu'ils vous entendent.
Alors, si seulement les dirigeants de ce monde pouvaient prendre cette leçon. Parce qu'il ne faut pas que les gens, comme se disent ceux, les énarques de notre pays... Je me rappellerai toujours, j'ai créé un mineur de fond à la demande d'un ami à moi. Comme j'ai fait une sculpture, un mineur de fond qui est installé à Entrange, sur la place du stade, qui a été inauguré en grande pompe. Et il y avait Madame Roche, une députée. Et à l'époque, M. Macron avait traité les gens, ils avaient parlé de classe moyenne et de classe laborieuse. Alors, j'interroge Madame Roche, je dis, écoutez, Madame la députée, avec tout le respect que je vous dois, dites donc votre patron, là, qu'est-ce qu'il comprend en classe laborieuse ? Elle me dit, oh, ben c'est le labour. Je dis, attendez, vous n'êtes pas en train de nous prendre pour des imbéciles, là, des fois, quelque part. Vous savez, c'est pas parce qu'on est en la France d'en bas qu'on n'a pas été à l'école. Je sais faire la différence entre le laborieux et le labour. Hein ? D'accord ? Le laborieux, qui pour moi, c'est celui qui fait un travail dégueulasse, qu'on lui demande de faire un boulot, puis qu'il le fait mal, qui est dégueulasse. Ça, c'est du travail laborieux. Hein. Mais par contre, le labour, c'est autre chose. Hein. Alors, vous n'êtes pas en train de nous prendre pour des imbéciles, quelque part. Hein. Alors, vous voyez, c'est encore une preuve de décrochement par rapport à la réalité d'en bas. Vous savez, quand Coluche, il disait, il y a une pyramide, il y en a un tout en haut, puis il est tout en bas. Hein. Si seulement... La merde de remonter un peu, hein, puis qui se disait, on leur prend trop de fric, faudrait peut-être leur laisser un peu d'argent. Je crois qu'il n'avait pas tort. Hein. Ce monsieur-là, il a quand même eu le courage de créer les Restos du Cœur. Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, en projet de faire les téléphones du cœur. Parce qu'un jour, il m'est arrivé une histoire invraisemblable. Une petite dame âgée qui ne pouvait plus appeler ses enfants parce que l'entreprise qui lui avait fait un contrat téléphonique lui avait coupé parce qu'elle n'avait plus les moyens de payer. Donc, elle ne pouvait plus. Je dis, attendez, elle ne peut plus appeler ses petits-enfants. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce qu'en plus, elle avait un problème avec son argent de retraite et tout. Donc, j'ai dit non.
De la même manière qu'on a des forfaits pour les tickets, enfin, les abonnements mensuels pour les retraités. On devrait, enfin les fournisseurs d'accès téléphonie et internet devraient quand même réfléchir au fait que ça, c'est une bonne idée, que cela puisse être progressif et que quand on arrive à l'âge de la retraite et qu'on a la moitié de son revenu et d'autres frais. Enfin, d'autres, c'est pas parce que... Enfin, tout le monde n'est pas devenu propriétaire. Tout le monde n'a pas pu capitaliser. D'ailleurs, on a des moyennes de revenus de retraite qui sont de l'ordre de 1 000 euros en France. C'est pas 2 000 euros de moyenne. On a une moyenne nationale d'un peu plus de 1 000 euros, 1 020 euros. De payer des forfaits de 32 euros ou d'une quarantaine d'euros parce qu'on a un fixe qu'on n'utilise plus. Enfin, je pense que ça devrait être... on devrait, à partir d'un certain âge, avec une notification de retraite, que ce soit SFR, Bouygues... Orange, etc. À un moment donné, entre le gain et il y a des questions qui se posent, en termes éthiques et tout ce que vient de dire Maurice nous vous a fait traverser le 20e et le 21e siècle. Bon, le 22e, on sera plus là, mais
on sera peut-être plus là, oui.
Et pour répondre tout à l'heure à votre question de non, il s'agit pas de revenir en arrière. Je pense qu'il s'agit de se réapproprier des principes et des valeurs qui sont universelles et qui normalement sont le fondement d'une organisation d'État, en l'occurrence pour les démocraties comme les nôtres, qui sont des démocraties déjà matures, avec plein de défauts d'ailleurs, et dont les personnes, la plupart des citoyens se détachent. On le voit avec la participation civico-politique, on retrouve toujours les mêmes. Hein. Quand on est dans un périmètre comme la ville, comme nous, notre ville de Metz ou la métropole, on est ici à Peltre, qui est un des plus beaux villages de France. Ce qu'on constate, c'est que évidemment les gens ressentent, et c'est un fait, c'est pas on dit souvent, enfin notamment les personnes qui sont en mandat politique, non mais c'est une perception. On a quand même une reculade sur le remboursement des frais de santé. On a des difficultés quand on a besoin de d'un ophtalmo ou d'un spécialiste, quand même de passer la moitié d'une année à attendre un rendez-vous, c'est quand même pas normal. Si on pense quand même à ces 80 dernières années depuis la Seconde Guerre mondiale sur la conquête des droits, on a parlé tout à l'heure évidemment de la question de la petite enfance, on a parlé d'égalité entre hommes et femmes, on a parlé de la question du travail, on a parlé de la question... Maurice nous a fait aborder en tout cas tout un tas d'enjeux. Qui nous oblige, enfin, je pense que si on revient pas, il parlait d'éducation parentale et de la communauté éducative en général, mais si on se détache d'un certain nombre de principes, moi je sais 10 dernières années presque qui viennent de passer du gouvernement Macron, c'est quand même le résultat de l'éloignement. On s'est complètement éloigné et décroché dès le début, en fait, de la promesse de proximité, de la promesse de l'écoute. Que vaut une démocratie et l'état de droit quand on décide quand même à deux ou trois, en catimini, à l'Élysée ou ailleurs, et que... il y a eu cette conférence citoyenne, il y a eu deux, trois moments où... on va trop loin, il faut quand même qu'on revienne sur le terrain et sur le quotidien ou la vie des gens... Moi, je me souviens quand même de tous ces cahiers, c'est pas que des doléances, il y avait vraiment des réflexions, des projets, d'excellentes idées, que ce soit sur la question de l'inclusion, de l'égalité, de l'écologie, du travail. C'est une valeur. Comment on l'organise, on a quand même des tentatives régulières de saccager le CDI. On parle quand même d'avoir une éducation nationale qui fait des contrats. Les concours, on a quand même une désagrégation parce qu'on renonce, et au plus haut niveau, à un certain nombre de principes. Alors on va les redire, on a des discours, on revient à la France universelle, à la promesse que la France, cette promesse d'égalité universelle. Et en même temps, on a tout le contraire. C'est-à-dire que c'est pas qu'un ressenti, il y a eu quand même une régression. Sur les droits, les communes se plaignent. C'est-à-dire qu'on se plaigne. On a les citoyens qui reconnaissent que le maire et les élus, même s'ils sont pas... Il n'y a pas de 10, personne n'est idéal. Et puis, dans certaines communes, pas du tout, d'ailleurs. Mais bon, en fait, ils reconnaissent encore au moins qu'il y a un effort de proximité et de prise en charge. De plus en plus de... la sécurité, c'est une question régalienne. La question évidemment des droits sociaux, c'est pas la ville, et même si on a des centres communaux d'action sociale, et celui de Metz est très important, qui interviennent, mais on a quand même un délestage de responsabilité, ce qui fait que on discute, on va chercher son pain, on discute avec tout le monde et on ressent quand même on revient en arrière, mais on revient pas en arrière sur sur les bonnes choses, donc et ça c'est important de le dire. Et donc il faut se battre. Et moi je vois bien, puisque je viens du monde associatif aussi, c'était la culture portugaise populaire, c'était plein de choses qu'on s'organisait. C'est-à-dire quand les gens arrivaient, moi j'étais petite, Et on avait déjà, mon père avait une machine Olivetti, et puis on avait des courriers types. À l'époque, c'était encore les titres de séjour pour les Européens. Il faut se rappeler que Maastricht, et puis la première année où les Européens ont pu avoir le droit de vote, c'est 2001. C'est pas si vieux tout
pas
ça.
Si vieux, ouais.
Mon père, il avait 48 ans ou 49 quand il a eu la première fois le droit de vote aux élections locales. Mais il a été le premier à voir Jean-Marie Roche en 1970, il était mineur encore, pour créer la première association pour s'organiser. La première chose, c'était pas de se communautariser. C'était de se sentir inclus. C'était de se sentir, surtout pouvoir être en capacité de régler les problèmes sans aller se plaindre ou aller demander au maire ou à ses adjoints ou à qui que ce soit de l'aide. C'était une façon de s'organiser sur la question des droits, sur les premiers qui ont pu en bénéficier. Bon. Et on entend de ci, de là, le discours séparatiste sur la différence. Voilà. Le réflexe n'est plus celui de tout ce qui nous unit, ça passe par le droit. Ça passe par l'état de droit, ça passe par le fait que c'est pas parce qu'on est...
Le respect de la dignité.
On a été portugais ou italien et qu'avant Maastricht, on avait quand même des droits qui étaient liés au travail. J'entends encore des choses qui datent d'il y a 20 ans ou 30. C'est-à-dire que oui, les Maghrébins et tous les autres, là, ils sont venus pour recevoir des allocations familiales. Non, mais excusez-moi. Ils sont devenus adultes, ils ont eu des enfants, ils en ont eu moins d'ailleurs.
Ils ont construit.
Et heureusement qu'ils en ont eu, puisque j'en fais partie. Donc, maman qui a eu deux grossesses et un couple de jumeaux, elle n'aurait peut-être pas dû les avoir. Bon, bref, je pense que quand ils sont nés, en tout cas à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas d'allocation familiale, ils sont venus plus tard, dans les années 80. Et heureusement, ça a été aussi un levier d'égalité sociale, ça a été un levier pour qu'on puisse accéder aux études supérieures, ce qui a été mon cas. Alors, tous les trois, on a fait des études supérieures. Tous les trois, on a eu quand même, et malgré plein de difficultés, la possibilité de choisir. Il ne faut pas renoncer. Alors, c'est peut-être un mythe, l'ascenseur social. N'empêche que il y a eu des mécaniques en place, et qui sont celles de cette République, et qui a été évidemment un modèle quand même social pour construire le modèle social européen. Et puis il y a des pays dans le monde qui nous envient. Je veux dire, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas idée de ce que c'est d'être tout d'un coup, une crise cardiaque et d'être pris en charge. Je vais vous donner un ordre d'idée. J'ai eu un cas comme ça d'un monsieur qui, il a eu une crise cardiaque. 4 nuits d'hospitalisation et une prise en charge, c'est un peu plus de 10 000 euros. Bon, il n'y a pas eu de question à se poser. Chacun paye à la mesure de ses possibilités. Donc tout ce système qui est basé quand même sur l'idée d'universalité, quand je disais tout à l'heure de revenir, c'est pas en arrière, c'est au principe. On est en train d'y renoncer partout. On a des attaques constantes de... Je vais pas faire Marx, c'est trop facile, mais on est quand même attaqué. Ces principes sont reniés, quoi. Ils sont à chaque fois petit à petit. C'est pas comme ça, du jour au lendemain, on va vous dire vous gardez du brut au net, vous gardez ce que vous avez sur le salaire, vous débrouillez. On n'en est pas encore là. N'empêche que on n'y arrivera pas si un certain nombre de, évidemment, citoyens, pas seulement les élus. Je rappelle aussi qu'on est dans la détestation croissante des élus, mais grandissante de tous les élus, sauf que la référence, c'est le ministre. Le président de la République, le Premier ministre, et qu'on oublie que 500 000 élus, sur les 500 000 élus français, la moitié, ils ont zéro. La moitié des élus de ce pays, à des niveaux de proximité qui, quand même, supportent aussi la charge de souffrance, et l'état de droit existe, sauf qu'il est faillible. Donc j'ai été élu, j'ai mis en place un système de relations usagers pour apaiser la relation administration et pour qu'on règle beaucoup, beaucoup de petits soucis, que tout ça soit fluide, que ça fonctionne, qu'on ait un vrai service public efficace, rapide, qui a d'ailleurs pas été mis en cause depuis avec la nouvelle municipalité qui recommence d'ailleurs un deuxième mandat. Mais tout ça pourquoi ? Parce qu'on laisse de l'espace et du temps aux gens pour penser à leur ville, à autre chose et à eux-mêmes, d'une autre manière. Et c'est important. Donc oui, ça coûte. Ça a un coût, hein. La création de ce service relations usagers, c'était plus de 300 000 euros à l'époque. Mais ça a un coût. L'éducation, la santé, ça a un coût, mais c'est aussi le coût du progrès. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, Et l'histoire de Maurice, en fait, dans ses combats et dans sa propre... en tant qu'individu, c'est nous rappeler que si on laisse tomber... C'est-à-dire que moi, je sais que tout le monde est très en colère. Il y a des raisons. Ce n'est pas une perception. On a reculé sur nos droits. Si on ne prend pas garde et si on... Alors moi, je fais confiance à la France. Parce que ce pays a toujours eu quand même... quand il convulse et qu'il sort dire ce qu'il pense. Et je ne crois pas que... Et je veux croire. Vraiment, je reste... Ce n'est pas optimiste. C'est quand même confiante dans cet esprit des Lumières. Et moi, je pense qu'une majorité de la France veut qu'on arrête de régresser et qu'on défende, qu'on continue d'expliquer ce qu'est la valeur de ces principes auxquels on a quand même un peu renoncé. Parce que c'est plus facile de se battre pour continuer à conserver ses acquis et à se battre pour de nouveaux droits. C'est important de le dire parce que Maurice et son histoire illustrent... Il y a sa propre volonté, son libre arbitre, son courage, mais il y a eu aussi tout le reste. Il y a quand même une prise en charge, même si elle n'a pas été parfaite. Il y a quand même eu un droit du travail. Hein. Il y a des droits qui sont liés au travail et il y a des droits à la retraite.
Ouais.
Hein, parce qu'il y en a qui disent que on n'a qu'à économiser toute sa vie.
Ah oui, c'est facile.
Et puis si on est malade et qu'on meurt avant, tant pis pour nous. On est quand même. Donc il faut se rappeler tout ça. Et je pense que le témoignage de ce matin de Maurice et le mien qui a traversé le sien, c'est de dire qu'il faut qu'on en soit ensemble. Il faut qu'on reste ensemble. Et pour qu'on reste ensemble, il faut qu'on continue à protéger ce qui a quand même porté ses fruits.
Et moi, je voudrais, pour conclure, je voudrais quand même dire une chose. C'est qu'il faut savoir que si on veut changer notre société, si on veut améliorer la vie de notre société, il faut que tous les gens qui ont ce pouvoir éducatif remettent l'éducation au goût du jour, parce que on a trop de parents qui ont tendance à se décharger sur l'éducation nationale ou sur d'autres systèmes pour dire, bon, voilà, maintenant il est là, il se débrouille. Non. L'éducation de nos enfants, c'est à nous de la faire. C'est à nous de la faire. Et par contre, l'idée de refaire un service militaire, moi je dis que c'est pas idiot. Parce que quelque part, y a une disparition d'un minimum de discipline. Je sais pas que quand... moi je pense que moi, l'orphelinat, je peux vous dire, bon, ça a été une douleur, mais ça a été énorme pour moi. Ça m'a appris à me respecter, à m'aimer moi-même, à déjà à être propre sur soi-même, être présentable. Être présentable, c'est être propre, c'est déjà l'image que l'on donne de sa propre personne. Déjà, ça c'est extrêmement important. Et quand je dis que l'éducation, c'est comme je vous dis, comme je disais Mandela, c'est la blâme la plus puissante de ce monde. Et si on n'a plus d'éducation, on n'a plus de pays, on ne peut plus travailler, on ne peut plus avancer. Si on n'a pas... Moi, je vois quand on... À l'époque, on allait dans les commerces. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames. Merci, madame. Merci, monsieur. Il y avait toujours ce respect. Que aujourd'hui, vous rentrez dans un commerce ou à la poste ou dans n'importe quel lieu public, vous dites bonjour, messieurs, dames. Tout le monde se retourne, vous regarde. On a l'impression que vous venez d'une autre planète.
C'est vrai.
Attendez. Alors... j'espère qu'on aura d'autres interviews. Je voudrais quand même terminer sur l'idée de mon livre. C'est surtout pour faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui que d'où qu'ils viennent, de quelque origine qu'ils soient, de quelque milieu sociétal ou sociaux qu'ils soient, ils ont le droit de se réaliser, ils ont le droit de se construire, ils ont le droit surtout de s'aimer, de se respecter, mais de respecter l'autre. Ils ont le droit à la dignité humaine, au respect de la dignité humaine. N'hésitez pas, les enfants. Quand vous allez devant la glace le matin, vous lavez les dents. Regardez-vous, aimez-vous, respectez-vous, comprenez-vous. À ce moment-là, vous serez capable d'aimer, de respecter, de comprendre l'autre. Sachez que aimer, c'est s'enrichir de l'autre. Merci.
Dernière question.
Oui.
Toujours utile. Hein. Où on peut trouver votre livre?
Là, il est en voie de finition.
Ouais.
Normalement, il devrait être fini fin de l'année.
Ouais.
Et tout ce que j'espère, c'est de trouver quelqu'un pour le publier.
Ouais.
Voilà. Donc, je fais appel si quelqu'un est intéressé. Je fais appel qui pourrait se renseigner auprès de RPL, Géraldine, pour m'aider peut-être à le finir et puis à le publier. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous,
merci,
toutes et tous.
Merci à tous les deux pour ce témoignage poignant, courageux. Merci pour votre éclairage précieux. J'espère qu'on se reverra une fois le livre publié. Hein. Je vous souhaite une très belle journée.
Et merci,
donc,
un bon week-end de Pâques.
Et un bon week-end de Pâques, exactement. Au revoir.